Culture Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury.
Jean-Luc Génère, Nadir Amaoui, bonjour.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, c'est une grande joie de vous réunir pour célébrer les 50 ans d'un petit théâtre. Une cave d'abord, en face du centre Georges Pompidou, c'est le théâtre de l'Essaillon. Et pour en parler avec nous, eh bien, nous avons Michel Laliberté, qui en est le patron, et puis Victor Haïm, qui en est, on va dire, un peu l'âme de la fondation. Parce que lorsque vous descendez dans l'Essaillon, sur la gauche, il y a une plaque. C'est pas une affiche, c'est une plaque commémorative où on dit que là, ici, la première de ce théâtre, c'était une pièce de et avec Victor Haïm.
Non, c'était juste... mise en scène de Régis Santon, mais je jouais pas. Il y avait Roger Mirmont, Maurice Bénichoux, Jacqueline Parent et un autre Tamin que je connais.
Et comment s'appelait la pièce?
C'était Comment harponner le requin.
Voilà.
Qui a été joué en Allemagne, Wie man den Haifisch harponiert.
À tes souhaits. Alors Régis Santon, c'était un infatigable metteur en scène qui prendra ensuite les rênes du théâtre Sylvia Montfort. Et cette première installation, eh ben, ça va se casser la gueule un peu, faute de moyens.
Ah oui.
C'est-à-dire, ça s'est passé comment?
Il y a eu des difficultés parce que c'était un petit lieu pas connu. Il est devenu petit à petit célèbre parce que sans doute il y a eu une bonne programmation, puis que les gens savent ce qu'est l'Essaillon.
Oui, mais il est devenu incontournable aujourd'hui à la fois pour les adultes et les enfants. Et on va en parler de la programmation qui est assez spectaculaire parce qu'il y a énormément de spectacles.
Oui.
Mais alors là, il y avait juste la salle de droite.
Oui, c'est ça.
Ce qu'on appelle la grande salle.
Ce qu'on appelle la salle et l'autre qui est la salle cabaret.
Qui a combien de places, la grande salle?
Alors, la Michel, grande salle aujourd'hui, bonjour,
bonjour.
Michel Laliberté, voilà. dans la grande salle, c'est 102 places et la petite salle, c'est 108, bien serré.
Alors, dans un premier temps, il n'y avait que la grande salle?
Non, il y avait les deux. Il avait les deux. Oui. Et c'est José Valverde qui, quand il a repris en 78 le théâtre, n'a fait... que du théâtre pendant longtemps, jusqu'en 87, dans la grande salle.
Ouais.
Et c'est là, je vais très vite dans l'histoire.
Hein, ouais,
et quand Alida Latessa, sa compagne et co-directrice, a pris les choses un peu en main, elle a rouvert la deuxième salle en 87.
Oui, parce que José Valverde était un comédien engagé, il était entré au Parti communiste à l'âge de 16 ans, fraîchement arrivé d'Espagne avec ses parents, et il va avoir vraiment un théâtre à message.
Oui. Oui, mais c'est un vrai homme de théâtre. Hein. C'est
un vrai
homme de théâtre. Il avait le théâtre dans le sang et il disait toujours il faut redonner la parole aux poètes de la scène. Quoi. Il voulait que ce soit les auteurs qui étaient privilégiés dans ce théâtre.
Enfin, c'est pas tout à fait vrai. Hein. Je suis désolé.
Alors, Jean-Luc Génère qui a connu tout ça dès la première
Oui. Non. José, la deuxième salle, moi j'y ai monté plein de spectacles. Donc tout de suite.
Dans les historiques, ils disent toujours à partir de 87, Alida ouvre la deuxième salle.
Oui, j'ai monté plein de spectacles là-bas.
Très bien.
Donc il y a toujours eu ce double.
Ah oui, toujours. Mais José était un homme absolument merveilleux, il faut le dire, quoi. C'est un vrai passionné, totalement cinglé, vraiment un homme de qualité. Il était communiste fervent, mais on s'entendait très bien, alors que moi je suis un gaulliste fervent, on s'entendait parfaitement, et puis il avait des points de vue qui ont ensuite un petit peu évolué. Il a même terminé à monter des spectacles dans mon théâtre. Pour taper contre l'islam, donc c'est pour des spectacles que personne ne pouvait accepter, sauf évidemment chez moi, puisque
j'avais un peu peur quand j'y suis allé. D'ailleurs, quand ils jouaient ce spectacle, j'ai dit il y a un type qui va arriver avec une Kalachnikov et qui va nous descendre, parce que c'était très 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 agressif.
Très agressif, mais il partait du texte du Coran et puis c'était hyper violent, mais passionné, mais fou complètement. C'était amusant de voir comment un communiste arrivait à ce glissement-là.
Alors Victor Haïm, vous êtes un comédien délicieux, méchant et doux. Vous êtes un auteur très très primé. En 71, le prix Ibsen avec La peau du fruit, le prix D.U. de la pièce la plus originale de l'année pour Abraham et Samuel, le prix Luniepo de la SACD, le prix Plaisir du théâtre, le prix du théâtre de la SACD, le prix Audiberti.
C'est un grand auteur.
Et puis vous avez eu le prix Charles Houlmont de la Fondation de France en 2001 et en 2003 le Molière du meilleur
Charles
auteur.
Charles Houdon, qui était un fou aussi.
Oui, mais que nous...
En 2003, j'ai eu deux prix qui...
Absolument, c'est-à-dire le prix du meilleur, le Molière du meilleur auteur oui, vivant et le grand prix du théâtre de l'Académie française
voilà, c'est ça.
Pour l'ensemble de votre œuvre.
Oui, c'est ça.
Et là, en ce moment, aujourd'hui, vous écrivez toujours et vous jouez.
Retour à la case départ, puisque...
À l'Essaillon.
À l'Essaillon, puisque Comment harponner le requin a inauguré l'Essaillon, et que maintenant, en 2024, je joue donc Un lézard chez la psy, qui est ma dernière pièce, mon avant-avant-dernière pièce. Il y en a deux autres qui me suivent. Je n'arrête pas.
Et avec une comédienne formidable.
Oui, qui s'appelle Sandrine Chauveau, que j'ai connue récemment d'ailleurs, et qui a une compagnie qui s'appelle Argile Théâtre. Elle vit à Avignon. Donc, on a travaillé, elle est venue à Paris, je suis allé à Avignon, on a travaillé le mieux qu'on pouvait avec les trains qui sont rapides. Et donc, elle a des projets encore de monter mes pièces. Elle veut monter deux autres pièces.
Donc là, vous jouez à l'Essaillon, quel jour et à quelle heure?
Alors, on joue en fin de semaine, le vendredi et le samedi à 19h.
Oui, c'est une bonne heure, et ce sont de bons jours.
Oui,
c'est une place de choix. Vous avez été chouchouté par le programmateur.
Et oui. Voilà, pour faire la boucle avec les 50 ans, évidemment.
Alors justement, Michel Lalumière, comment se passe la programmation? Il y a combien de spectacles en ce moment?
En ce moment, il y a à peu près 22 spectacles en même temps. Et durant l'année, on n'est pas loin de 90 spectacles. Enfants, jeunes publics et adultes confondus. J'ai fait des petits calculs pour les 50 ans. Et déjà, nous, on a 2000 représentations par année, à peu près. Et en 50 ans, il y a eu 75 000 représentations dans ce théâtre.
C'est extraordinaire.
C'est vraiment incroyable. Ça veut dire, il y a eu de la création, il y a eu 10 000 artistes. C'est des calculs qui sont un petit peu... on a calculé 2,4 millions d'entrées en 50 ans.
Mais ça fait partie de ces petits théâtres qui sont des grands classiques. Je pense à la Huchette, je pense au Lucernaire et je pense à l'Essaillon. Vous êtes de la même famille.
Oui, c'est des petits théâtres. Nous, on fonctionne sans subvention. On est un théâtre privé de subvention, avec le jeu de mots.
Comme de plus en plus, malheureusement.
Oui, voilà. Et donc, mais on y croit, on y va, on vise toujours les meilleurs spectacles. Mais en fait, Essaillon, j'aime bien Essaillon. Et demain, je vais dire pourquoi j'aime ce terme. Essaillon, c'est essai, mais c'est
Essaillon.
Oui, il y a Essaillon, Essaillon.
Oui.
Et le mot, quand on va voir la définition dans le dictionnaire, essai, c'est action sans en connaître le résultat.
Ça
donc,
bien.
On peut se louper.
C'est...
Et on peut faire des choses merveilleuses. C'est là, c'est la création. C'est ça que j'aime.
Aujourd'hui, le drame, c'est qu'on ne peut plus rater, quoi. Ça coûte trop cher. Donc, c'est important de pouvoir essayer, rater, voilà. Et c'était le but de ce théâtre. Et il faut dire
c'est
aussi.
C'est toujours le but. Voilà. Faut pas en parler au passé.
Il faut dire aussi et surtout quelque chose de très très important, c'est qu'il y a un rapport scène-salle qui est formidable.
Oui.
Parce que ça aussi,
oui,
c'est compliqué.
C'est très important, ça.
C'est l'essentiel. Quoi. Le théâtre, il a besoin que les spectateurs soient... pas seulement de voir bien, mais d'être tout près, d'être dedans, d'être... Voilà. Et ce sont deux espaces qui sont absolument magnifiques. Vraiment, c'est un très, très beau lieu. On connaît Michel depuis longtemps, mais
Michel,
très bien, en tout cas. Donc,
vous êtes le directeur artistique, vous êtes un comédien aussi. On vous a vu dans l'adaptation théâtrale de La Belle et la Bête. Vous avez votre petite touche personnelle. Et puis, Sous le sapin, inspiré de Casse-Noisette, un spectacle que vous aviez écrit et mis en scène vous-même. Et puis, François Rabelais, Portrait d'un homme qui n'a pas souvent dormi.
Tranquille.
Voilà. Vous étiez seul sur scène?
Non, j'étais avec Philippe Bertin. Moi, c'était une mise en scène de Jean-Pierre Andréani. C'est un texte, une co-écriture de Jean-Pierre Andréani et de Philippe Bertin. Et moi, je jouais tous les personnages. Donc, j'ai joué l'évêque du Bellay, l'inquisiteur, le Sorbonnard, le meilleur ami aussi de Rabelais, des personnages, Marguerite de Navarre. Voilà, j'en jouais 7-8. Et j'ai eu beaucoup de plaisir. Et les gens... Et je suis d'accord avec Jean-Luc. Le théâtre, c'est un texte, un acteur un public. Le public est essentiel. Essentiel, c'est il n'y a pas d'œuvre théâtrale sans le public. Et quand je voyais le regard, la jubilation du public quand on sortait de scène, on venait de finir la guerre de Picrocolline, ça n'a pas de prix.
Oui.
Les gens, tu sens que les gens ont vécu quelque chose.
Oui.
Au théâtre, le public est créateur. Voilà, c'est toute la différence. Je ne suis pas consommateur comme au cinéma. Voilà, c'est toute la différence. Elle est fondamentale.
J'ouvre une petite parenthèse et je reviens sur un spectacle que nous avions évoqué dans une des émissions ici, qui est au Lucernaire et qui est Naïs de Marcel Pagnol, que je suis allé voir. Et il y avait des scolaires. Il y avait la salle était à moitié pleine de scolaires. Et c'était des scolaires qui, visiblement, ne connaissaient pas le théâtre, parce que leurs professeurs, les encadrants, leur ont dit, vous savez, ce sont des vraies personnes que vous allez voir, donc respectez-les. Et on a eu une pièce, un silence de mort, une salle qui était totalement attentive. Et au moment où le bossu raconte qu'il n'est plus le petit bossu, puisque sa grand-mère est morte, on a entendu dans la salle un « Oh !» Et à la fin, ça a été des applaudissements nourris et surtout, tous les enfants qui ont crié « Merci !» C'était magnifique, je vous en parle, j'en ai encore des frissons. Et c'est ce que vous dites, Michel Laliberté, il faut le public.
Ah oui.
Et lorsque le public sort tellement content, c'est vraiment merveilleux. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'Essaillon ? Essayons. Il y a des spectacles qui ont connu un vif succès à Avignon et qui arrivent chez vous et qui ne marchent pas. Et il y a des spectacles, à contrario, qui pourraient passer totalement inaperçus et qui prennent leur envol à l'Essaillon. Je pense au Crédit de Jean-Pierre et Sylvain Bunion, le texte de Jordi Calcerón adapté par Éric Sivagnan, qui partent de chez vous. Et là, je sais qu'ils sont en tournée dans toute la France.
Oui.
Donc, cette alchimie, elle est très curieuse.
En fait, il y a tellement de paramètres. Avignon n'est pas Paris. La saison n'est pas l'été festivalier. Hein. Tout est différent. Ça dépend de l'horaire, ça dépend du moment de l'année, ça dépend de tellement de choses, tellement d'éléments que c'est très difficile. C'est pas une science exacte et c'est très compliqué d'expliquer pourquoi ce spectacle.
Ah bah sinon on serait tous milliardaires si on avait.
Oui, bah exactement. Et malheureusement, et à quelque part, on connaît. S'il y avait une recette, ça serait plate. Parce que on n'essaierait plus, on se dirait ça marchera pas, on va pas l'essayer. Au contraire, mais il y a des surprises et moi je pense que de toute façon si on ne fait pas, il faut faire, on essaie. Que ce soit Avignon, Paris, l'hiver, l'été, il faut essayer, essayons. Voilà.
Les enfants sont vraiment là pour le nombre de spectacles pour enfants que vous programmez.
Oui. On a eu une baisse. On a eu une baisse enfants-adultes après la Covid. Adulte, parce qu'il ne faut pas se cacher, c'est que le public de théâtre est un public un peu âgé. Et c'est vrai que la Covid a fait en sorte qu'on a perdu. Il y a des gens qui ne sont pas déplacés, ils ont arrêté de se déplacer.
Ils ont vieilli, ils ont pris une canne, il faut descendre l'escalier.
Exactement. Il y a eu une baisse. Voilà.
Avec des directeurs de théâtre qui obligeaient les masques, des bêtises comme ça. Enfin, alors que c'était l'essence même du théâtre, c'est de voir le spectacle comme ça. Là aussi,
mais il fallait reprendre la tragédie grecque avec le masque.
Non, mais c'était extrêmement grave. Les gens de théâtre se sont conduits comme des pignoufles.
Nadia Maoui, là, vous allez. À l'Essaillon, parce que je sais que vous y allez souvent.
Oui, j'y vais souvent. J'ai découvert ce théâtre il y a peut-être quoi avant. Je crois que c'était tout juste avant le Covid ou après même. Je le connaissais de nom.
C'est récent.
Ouais. Et la programmation que j'y ai découvert, j'ai été stupéfait parce que il y a une politique justement de programmation dans ce théâtre que je trouve extraordinaire. C'est que justement, comme vous dites, vous laissez la possibilité à des jeunes compagnies qui n'ont pas de production, qui n'ont rien, la possibilité de créer leur spectacle et comme le disait Christophe, que ce soit des succès ou que ce soit des moindres succès dans votre théâtre, vous leur donnez la possibilité, la chance même de pouvoir monter leur spectacle à Paris. Et ça, il y a très peu de théâtres dans des conditions abordables, bien sûr, pour ces compagnies-là. Il y a de moins en moins de théâtres qui ont la possibilité de faire ça. Je pensais, donc on a parlé du Crédit, on a vu une autre pièce là-bas, et la programmation est tout simplement sublime. On a parlé du Crédit, on peut penser aussi d'Un pont pour deux.
Formidable.
Qui était une pièce absolument formidable aussi. J'ai été voir il n'y a pas longtemps...
Pour les auditeurs, il faut raconter, Un pont pour deux, c'est une femme qui se met au-dessus du pont, au-dessus de la balustrade, elle est au-dessus du fleuve, et elle va sauter. Elle n'en peut plus. Et arrive un homme qui ne fait pas attention, il passe au-dessus de la balustrade, il va sauter, il la regarde, il dit « Oh ben après vous, madame !» Et ça commence comme ça.
Un pont trop près.
Et forcément, ça va bien se terminer. Oui. Mais c'était une pièce merveilleuse.
Comme d'habitude, parce que Christophe et ils sont adorables tous les deux, mais ils sont toujours en disant « C'est formidable.
Bah, » La pièce était très bien.
Non, mais la critique devrait être...
Ouais. Bon.
Une forme de pédagogie de l'enthousiasme.
Oui, c'est ça.
C'était ce que disait Aragon, et moi, c'est mon drapeau. La pédagogie de l'enthousiasme, vous le savez.
On se rengueule assez à chaque samedi.
Quelquefois, on n'est pas enthousiaste. Hein. On sort de...
Alors, on n'en parle pas.
Si, on en parle.
Ah, justement, on en parle.
Justement, il faut savoir dire du mal, parce que sinon, c'est n'importe quoi.
Il y a des gens qui même sont un petit peu, comment dirais-je, ils sont un petit peu pervers, et ils se précipitent pour venir voir la pièce d'un auteur qu'ils n'aiment pas. C'est arrivé avec un critique, moi, qui m'a suivi pendant 18 ans.
Tu parles de Jacques Nerson, c'est ça ?
Pardon ?
Tu parles de Jacques Nerson ?
Non, je parle... Non, on peut dire les noms ?
Oui, bien sûr.
C'est Robert Canters.
Ah oui, au bon.
Alors, une fois, il a écrit... Je l'ai retenu parce que je l'ai recasé
Jacques
dans une pièce.
Mort,
la phrase était tellement magnifique. Il a écrit « Mieux vaut transformer les théâtres en garage que laisser Victor Haïm faire fonctionner sa pompe à merde. » Il a écrit...
Chic.
Il a écrit ça.
Ouais, mais c'est drôle,
alors,
ça. C'est
alors violent. au bout de 20 ans, moi je n'écris jamais.
Non, m'occupe pas ça aux gens.
Alors, évidemment, moi je polémique jamais avec un critique. On a besoin des critiques, on accepte, et puis c'est la loi du genre. Mais quand même, au bout de 20 ans, je lui ai écrit, je lui ai dit, écoutez, je comprends qu'on n'aime pas un auteur. On voit une pièce, on voit deux pièces, on voit trois pièces. Au bout de la cinquième et sixième, pourquoi vous vous battez pour avoir une place à la générale, puisque vous allez voir un étron fumant?
Mais parce que les auteurs changent, peuvent progresser, devenir...
Peut-être qu'il se dit qu'il va progresser.
En plus de ça, le cher Canters, il était aveugle. Donc...
C'est parce qu'il avait écrit...
Faut pas oublier ça.
Mais Jean-Luc, c'est parce qu'il avait écrit un bouquin très touchant, très beau, qui s'appelait « Perte de vue ». Je me suis permis à la fin de sa vie de lui écrire en lui disant « Vous avez le droit de pas aimer mon théâtre. Vous avez le droit. Vous pouvez le massacrer tout. Mais seulement, pourquoi l'acharnement ? Je veux dire, vous le faites pendant 10 ans, pendant 11 ans, pendant 15 ans, mais pendant 20 ans. »
Alors que sur toute votre longue carrière, vous n'avez eu qu'un seul four.
Oh, j'ai eu plusieurs.
Non, le vrai four, vous me l'avez raconté.
C'est Steak.
Oui, c'était que vous m'avez raconté ici à cette antenne.
Ah oui.
Oui. Où la pièce commence, et puis le soir même, je crois, ou le lendemain, vous entendez l'une des comédiennes qui dit qu'elle ira sur un autre projet.
Oui.
Non, c'était sur France Inter.
C'était voilà. Monique Tarbès.
Voilà.
Qui était la vedette de la pièce et qui a été invitée à France Inter.
Oui.
Et le soir même, on a dit alors, Monique Tarbès, c'était José Arthur, qui était un homme très charmant.
Charmant, bien, merveilleux.
Très, très gentil, et qui a dit à Monique Tarbès, on vous revoit sur les planches, quel bonheur. Alors, vous jouez une pièce de Victor Haïm. Ouais, c'est une mauvaise pièce, mal mise en scène et épouvantable. Comme ça, en direct. J'ai dit, c'est rigolo quand même de subir ça. J'ai cru que c'était au second degré, que c'était
de
l'humour. Pas du tout. Elle m'a confirmé qu'elle détestait jouer cette pièce. C'est formidable de vivre ça quand on est auteur.
C'est effrayant même. C'est effrayant.
Alors, c'est beaucoup plus inquiétant parce que quand on est dans un projet, on le défend. Quoi.
Bon, on le défend.
Mais la place du critique, c'est pas la même chose.
Non. Alors, allez, Saillon, il y a des spectacles qui durent, et je pense à Racine par la Racine. ce spectacle qui revisite 11 tragédies de Racine, avec naturellement Raymond, Bérénice, Andromaque, Britannicus, mais aussi Bajazet et Mithridate. Ça fait au moins 10 ans.
Ils connaissent son 14. Racine. Vous
avez... oui, oui, c'est toutes les pièces, hein, vraiment, là. Non, non, 14 ans. Et d'ailleurs, cette année, je leur ai dit, parce qu'ils sont dans la grande salle et
c'est de l'occupation.
C'est de l'occupation. Je leur ai dit, écoutez, on va arrêter. Voilà, on a fait un long parcours. Moi, j'ai besoin aussi d'avoir de voilà,
c'est, ben oui, ça,
c'est, parce que c'est vrai que la vente, ce spectacle attire énormément les collèges et lycées.
Oui.
Et oui, bah
non, pas
oui.
Tant mieux parce que c'est paresseux.
Non, non, non. Mais tant
mieux. C'est vrai qu'à un moment, moi, j'ai besoin de voilà.
Ben
et
oui.
C'est mon, on est deux hein, à gérer le lieu et mon associé me disait oui, mais faut les garder, il faut les garder. J'ai dit, bon, oui, on va les garder. À un moment, cette année, j'ai dit bon, on va s'arrêter là. Et mon associé les a programmés dans l'autre salle pour l'année prochaine. Donc Racine va continuer, mais pas de, pendant ma salle. En tout cas,
bon, non, parce
mais
que
ça a été, mais
c'est un très bon spectacle.
Oui, oui, absolument.
Et pour, bon, les, et pour les lycéens, c'est formidable parce qu'on a une vue d'avion sur toute l'œuvre de Racine.
Non, 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 mais comment tu peux dire des trucs comme ça? Non, c'est le raideur digeste de Racine. Enfin, c'est pas. Non, mais c'est pas sérieux, Christophe.
Dire, bah, oui. Non,
j'ai dit tant mieux pourquoi? Parce que si ce genre de spectacle, même si ça survole l'intégralité des œuvres de Racine, si ça permet aux collégiens et aux lycéens d'aller au théâtre et de se réconcilier avec le théâtre qu'ils considèrent, attends, laisse-moi terminer, qu'ils considèrent pour la plupart comme une occupation de vieux, j'utilise bien le terme de vieux parce que je l'ai déjà entendu, sincèrement, si ça peut leur donner envie après d'aller voir Bérénice dans son entièreté, toutes les autres tragédies de Racine dans son entièreté grâce à un spectacle comme celui-là, mais que ce soit rempli par les écoles, mais tant, moi sincèrement, c'est pour ça que je dis tant mieux. Si on peut permettre avec des spectacles comme celui-là et tant d'autres, à l'Essaillon comme ailleurs, de faire découvrir des petits extraits de ces tragédies et que ça leur donne envie d'aller voir les spectacles en entier, c'est réussi.
C'est ce qu'on appelle le rider digeste. Voilà.
Non, mais au moins, ils savent que ça existe.
Voilà.
Au moins, ils savent que ça existe. Ils savent que Jean Racine existe.
Et on ne voit plus que ça, ce genre de choses. Voilà.
Les
chefs-d'œuvre avec deux comédiens pour jouer Cyrano de Bergerac.
Moi, j'aime bien défendre l'écriture classique. Et contemporaine, mais c'est pour ça que moi personnellement j'aime bien monter. J'avais monté un Musset,
bah oui, ce qui était merveilleux d'ailleurs.
Oui, mais bah oui, mais
non, non, mais oui, je peux le dire. Là, oui.
Je dis assez c'est avec oui, merveilleux.
Mais on avait, non, non, mais c'est moi j'aime bien. Voilà, oui, oui, mais je
excellent.
Voilà, allez, je suis d'accord avec Jean-Luc sur le fait de monter des œuvres de façon intrinsèque, dans son entièreté.
Oui.
Ça, c'est... Mais j'entends, parce que c'est vrai que nous, si ça se trouve, on a fait découvrir du théâtre à des jeunes et des générations
sûr, fait,
qui n'allaient jamais au théâtre. Mais voilà, moi, c'est ce qui me botte vraiment, c'est l'œuvre complète.
Bien sûr. Voilà.
Ah, mais on est tout à fait d'accord.
On est tout à fait d'accord.
Un petit déclic.
Quels sont les autres spectacles comme ça qui sont presque éternels chez vous?
Ah ben il y a les Los Guardiola qui est pas c'est pas de la danse, c'est un peu de alors les Los Guardiola c'est une œuvre à part, c'est de la pantomime, c'est du tango, c'est lui est argentin, elle est italienne, c'est un petit bijou, hein, c'est magnifique, ils ont un sketch, ce que j'appelle sketch, mais enfin une histoire qui dure 8 minutes, ça s'appelle La Garçonnière et ils dansent sur un bloc qui fait 60 par 60. Et il nous raconte en pantomime, et ça, c'est magnifique, il le répète tous les jours. Il le répète. Oui,
c'est quel jour et à quelle heure?
Je dis à 19h, sauf que cette année, l'année prochaine, voilà une autre, ça faisait 7 ans qu'on travaillait ensemble, on continue, mais seulement à partir de janvier. Ça ne sera plus tous les jeudis à 19h comme ça l'a été pendant 5-6 ans.
Victor Haïm, vous avez monté combien de pièces à l'Essaillon ?
5, je crois.
5,
oui. 5 aux poches et 5 à l'Essaillon.
Et vous avez toujours le même plaisir de rentrer dans ce lieu ?
J'ai du plaisir à rentrer dans ces lieux, mais je suis un grand traqueux. Alors, à chaque fois, j'ai le ventre qui fait
oui,
mal.
Oui, donc vous avez du plaisir à en sortir, pardon.
Un peu.
Oui.
Je dois dire. C'est fou de dire ça, parce que les acteurs, ils aiment bien dire « Oh, j'étais heureux, qu'est-ce que j'ai pris du plaisir et tout. » Moi, j'en prends très peu parce que j'ai peur, mais ça se voit pas parce que j'ai suffisamment de métier pour le masquer d'une manière un petit peu rusée.
Enfin, on est bien d'accord. Quand pas, pas de trac, pas de talent.
Le trac de l'auteur n'est pas le même que le trac du comédien. Hein.
C'est voilà. Deux tracs. Et moi j'ai les deux.
Eh ben oui, mais lui, il est auteur. Et
je sais bien,
ça s'accumule. Oui.
Parce que vous ne jouez jamais les pièces que vous mettez en scène, Jean-Luc.
Non, je ne joue jamais les pièces que je mets en scène, mais je joue de temps en temps les pièces que j'ai écrites.
Eh bien, merci, merci à tous les quatre. Merci Michel Laliberté, Victor Haïm. On va vous rejoindre au théâtre de l'Essaillon. Je rappelle quand même que c'est 6 rue Pierre Aulard, à Paris, dans le 4e, dans le quartier du Marais. Et c'est en face de Beaubourg. Merci Jean-Luc Génère, merci Nadir Amaoui. Merci Cédric Coba pour la réalisation. Et merci à François Dieudonné, Philippe Malpeuch, Camille Meyer et Faustine Cléry pour la réussite technique de notre rendez-vous. Nous nous retrouvons lundi pour aller au musée. D'ici là, je vous souhaite un bon week-end. Prenez soin de vous et des autres et je vous embrasse.